France Culture.
Le journal est présenté par Faïza Trita. Bonsoir.
Bonsoir Quentin et bonsoir à tous. Donald Trump exige une capitulation sans condition de l'Iran. C'est ce qu'il a écrit sur son réseau social. Des frappes visent toujours Téhéran, la capitale. Et dans le même temps, des partisans du régime ont organisé aujourd'hui une manifestation de soutien au régime des Mollahs. Immersion à suivre dans ce journal. Nous serons aussi des deux côtés de la frontière entre Israël et le Liban. Grâce aux envoyés spéciaux de France Culture dans la région, l'armée israélienne qui frappe intensément le sud du Liban, le Hezbollah libanais lui continue d'envoyer des roquettes sur le nord d'Israël. La guerre au Moyen-Orient qui fait grimper les prix de l'énergie en France, surtout ceux à la pompe, LFI a déposé une proposition de loi pour bloquer les prix. Et puis le dossier de ce journal de 18h, une enquête de la cellule d'investigation de Radio France sur TikTok, le réseau social chinois qui assoit son influence en France. Dans le même temps, il est toujours accusé par des familles de faire du mal à la santé mentale de leurs enfants et dans les cas les plus graves, de les pousser au suicide. Il n'y aura aucun accord avec l'Iran, sauf une capitulation inconditionnelle. Capitulation inconditionnelle écrit en majuscule. Donald Trump s'est exprimé sur son réseau social Truth Social une semaine après le début des frappes américaines et israéliennes en Iran. Le président américain qui a aussi indiqué qu'il voulait s'impliquer à la fois dans le choix des futurs dirigeants du pays et dans sa reconstruction future. L'aviation israélienne, elle, a lancé une nouvelle vague de raids aériens à Téhéran. À Téhéran, la capitale, où des puissantes explosions ont été entendues. Selon le ministère iranien de la Santé, d'ailleurs, et depuis une semaine, près de 1000 personnes ont été tuées dans les frappes, dont environ un tiers d'enfants. L'AFP n'a pas pu vérifier ce bilan de manière indépendante. En Iran, il y a encore des partisans du régime des Mollahs. Alors, impossible de dire combien, entre 20 et 30% de la population, selon différents spécialistes, des partisans qui sont descendus dans le centre de la capitale Téhéran pour soutenir le pouvoir. Siavosh Ghazi, vous étiez parmi la foule.
C'est une foule déterminée qui s'est rassemblée dans le centre de la capitale. Beaucoup portaient des drapeaux tricolores et escandaient « Mort à l'Amérique » et « Mort à Israël » et demandaient la vengeance, comme cet Iranien de 45 ans venu avec sa famille.
Seulement la vengeance, nous le peuple, nous résistons. Nos responsables doivent aussi résister, nous venger et détruire Israël.
C'est aussi la même détermination chez cette Iranienne de 40 ans venue avec ses deux enfants, dont l'un est dans une poussette.
Nous demandons seulement au gouvernement et à la République islamique la vengeance et la disparition du régime illégitime d'Israël.
Lorsqu'on les interroge sur les frappes, tous disent qu'ils n'ont pas peur, même si les bombardements sont de plus en plus intenses.
Le reportage de Siavosh Ghazi, Siavosh Ghazi, le correspondant RFI en Iran pour France Culture. Le Liban, qui depuis lundi est visé par les frappes israéliennes, l'armée israélienne qui vise des positions du Hezbollah, le Hezbollah allié du régime iranien, le ministère de la Santé libanais qui dénombre 217 morts et 798 blessés depuis le début du conflit. 300 000 personnes également ont été déplacées suite aux frappes israéliennes, selon une ONG norvégienne, le Hezbollah, qui appelle les Israéliens à évacuer la bande frontalière avec le Liban sur une distance de 5 km. C'est une façon de répondre aux appels similaires qui ont été émis par l'armée israélienne aux habitants de vastes parties du Liban, dont le sud du pays et la banlieue sud de Beyrouth. Étienne Monin, pour France Culture, vous êtes, vous, à 10 km de la frontière israélienne dans le sud du Liban.
Et voici l'ambiance de la journée. Les frappes et les tirs de tanks ont été soutenus. Marjayoun est en face de la ligne de front. On peut voir passer les tanks sur la colline d'en face. On entend les frappes tout autour. Elles visent les positions du Hezbollah sur les hauteurs et dans les villages chiites. Depuis sa maison, Noah a un point de vue imprenable sur ces combats. Mais elle estime qu'il n'y a pas véritablement de confrontation avec le Hezbollah, contrairement à ses déclarations.
Quand il y a des échanges de tirs des deux côtés, on peut dire qu'il y a une
une résistance, mais on n'entend pas les deux côtés, on n'entend qu'un côté. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas de résistance.
Les habitants qui restent dans ce périmètre sont essentiellement chrétiens. Ils sont en quelque sorte dans une enclave autour des villages chiites qui ont été abandonnés. Mais le secteur est dépeuplé, l'activité est sensiblement freinée maintenant, dit Amer Dabes, papa de 3 enfants.
Oui, la vie s'est ralentie, ça s'est dégradé. Les écoles ont fermé, les routes ne sont plus sûres. Circuler devient dangereux. On commence à manquer de l'essentiel, comme l'essence, la nourriture, dont l'approvisionnement commence à devenir difficile.
Ce matin, l'église a appelé les derniers habitants à rester coûte que coûte ici, même en cas d'occupation israélienne.
Le reportage d'Étienne Monin au sud du Liban avec les moyens techniques de Martin Troadec. De l'autre côté de la frontière, en Israël, l'État hébreu qui dit avoir tué 70 combattants du Hezbollah et frappé plus de 500 cibles au Liban depuis lundi. Israël indique aussi que le Hezbollah a tiré quelques 70 roquettes vers son territoire aujourd'hui. Et à l'extrême nord d'Israël, on vous retrouve, Agathe Mahué, bonsoir.
Bonsoir.
Agathe Mahué, envoyée spéciale de France Culture au nord d'Israël. Vous avez passé donc la journée à la frontière avec le Liban.
Oui, entre Kiryat Shmona et la dernière petite ville de Metoula, où l'on voit passer des soldats israéliens par dizaines et des camions transportant des tanks, les habitants ici, contrairement à 2023, n'ont pas été évacués.
Hey, this is Lebanon.
Le Liban est juste là, à 50 mètres, dit Barnea, qui ne dort plus depuis une semaine, tout comme sa femme Ricky, parce que les tirs sont permanents. Tous deux lèvent la tête et commentent. Tiens, là c'est de chez nous que ça part, devenu expert comme tout civil vivant en zone de guerre. Et le Hezbollah, en retour, envoie depuis lundi des drones, des roquettes. Tout à l'heure, c'est un poste militaire israélien situé juste un petit peu plus loin que chez eux qui a été touché. Ricky, elle reste prudente. Il y a ce grand drapeau bleu et blanc israélien qui d'habitude flotte au vent devant leur maison. Mais depuis quelques jours, il est complètement enroulé sur lui-même, par précaution, par peur que le Hezbollah aux jumelles ne prenne pour cible la maison. Elle dit espérer que tout ça s'arrête au plus vite et que le mouvement chiite libanais disparaisse pour toujours, au moins que la menace du Hezbollah s'éloigne encore grâce à cette zone tampon que les Israéliens sont en train de mettre en place comme un no man's land d'une dizaine de kilomètres de large au nord de leur frontière.
Agathe Mahué, envoyée spéciale de France Culture au nord d'Israël avec les moyens techniques de Jérémy Thuil et Alexandra Vardy. Dès les premières heures des attaques américaines sur l'Iran, souvenez-vous, le régime iranien affirmait qu'une école de filles avait été visée, une école fréquentée par des filles âgées de 7 à 12 ans. Le régime affirmait que 168 fillettes avaient péri dans les attaques. L'ONU a demandé que l'enquête américaine soit rapide et transparente. Et ce matin, c'est une enquête du New York Times qui suggère, sans l'affirmer néanmoins, qu'il s'agit d'une frappe américaine. Angélique Boin, que sait-on à ce jour de cette frappe?
Ce que l'on a établi avec certitude, c'est qu'une école a bien été détruite à Minab, dans le sud de l'Iran. École qui était accolée à un complexe militaire du corps de la marine des gardiens de la Révolution, ciblé lui aussi par des frappes. Sur des images satellites que l'agence a pu consulter, 6 autres bâtiments situés sur ce terrain militaire adjacent étaient touchés. Avec des frappes de précision, on voit des trous très nets dans certains toits. Cela ne plaide pas en faveur de la thèse avancée par certains d'un missile iranien qui aurait des accidentellement de sa route. Des responsables américains ont par ailleurs admis que leurs forces étaient en opération dans la région. Une carte d'état-major des frappes le confirme. Et ce que précise l'enquête du New York Times, c'est que les frappes sur l'école et sur la base navale sont, selon leurs sources, simultanées. Pour ce qui est du bilan humain de ce bombardement, en l'absence de vidéos indépendantes montrant un grand nombre de corps d'enfants dans cette école, le chiffre fourni par les Iraniens n'est à ce stade pas vérifiable. Mais des vidéos montrent des secouristes en action et les images de l'établissement aux 2/3 détruit, s'il était plein d'enfants, il y a école le samedi en Iran, rendent tout à fait crédible un bilan humain très lourd.
Les explications signées Angélique Bouin de la cellule de vérification de Radio France. La guerre au Moyen-Orient qui fait grimper mécaniquement le baril de pétrole et donc le prix de l'énergie. Le prix du baril de pétrole a dépassé aujourd'hui les 90 dollars. Il faut dire aussi que le trafic des pétroliers via le détroit d'Ormuz a diminué de 90% en une semaine selon la société d'analyse spécialisée Kepler. Alors pour l'heure, en France, les prix à la pompe ont augmenté de 5 à 15 centimes d'euros sur le sans-plomb 95 et de 15 à 20 centimes sur le gazole selon le ministre de l'économie Roland Lescure. Et les oppositions se sont emparées du sujet avec par exemple la chef des députés RN, Marine Le Pen, qui avait proposé de baisser les taxes. Une idée repoussée par le gouvernement et désormais, autre idée, le blocage des prix. Une option qui avait été utilisée au moment de la crise du Covid pour plafonner le prix des masques et des gels hydroalcooliques. Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
La France Insoumise a déposé une proposition de loi pour geler donc les prix de l'énergie.
Oui, proposition qui ne pourra être examinée qu'après les élections municipales et cherche surtout à mettre la pression sur l'exécutif, car il n'y a pas besoin d'une loi pour bloquer les prix. Le gouvernement peut le faire par décret en cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée. C'est l'article 410.2 du Code de commerce. Alors dans sa proposition de loi, LFI précise ces circonstances, crise internationale affectant la production et l'acheminement, conflits armés, dommages aux infrastructures énergétiques, on retrouve tous les ingrédients de la crise actuelle, sont listés trois types d'énergie, carburant, gaz et électricité, et un public, les consommateurs. En revanche, la proposition de loi ne détermine pas de prix, car c'est du ressort du décret. Or, trouver le bon prix n'est pas si simple, car s'il est trop bas, cela peut entrer en contradiction avec l'interdiction de vente à perte en France. Quand il avait bloqué le prix des masques au printemps 2020, le gouvernement avait d'ailleurs été très prudent, puisqu'il avait fixé la limite à 95 centimes le masque chirurgical, ce qui était 10 fois plus que le prix avant Covid. Plafonner le prix de l'essence à 17 euros le litre, avouez que cela ferait mauvais genre et n'aurait aucun sens. Alors au fond, l'objectif d'LFI, c'est d'éviter que les compagnies pétrolières ne soient les vraies gagnantes de l'envolée des prix de l'énergie, comme ce fut le cas au début de la guerre en Ukraine. Mais pour le moment, le ministre de l'économie, Roland Lescure, ne s'est pas prononcé sur le sujet des blocages de prix. Interrogé à ce propos, Bercy n'a pas de déclaration à faire et dit concentrer son énergie sur les contrôles pour éviter les abus.
Les explications signées Marie Viennot, merci. Le porte-avions français Charles de Gaulle est entré en Méditerranée. Le bateau militaire a été envoyé par la France au Moyen-Orient. Il est entré dans le détroit de Gibraltar en début d'après-midi. Le porte-avions Charles de Gaulle qui a été envoyé par le président de la République pour protéger les ressortissants et ses alliés, le Qatar, le Koweït et les Émirats, des alliés frappés par l'Iran. La France qui en complément a aussi déployé un porte-hélicoptère. La guerre au Moyen-Orient, ce sera aussi le thème de la réunion convoquée par le Premier ministre Sébastien Lecornu mercredi prochain. Il invite les présidents des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, les présidents des deux chambres, ainsi que les présidents des commissions parlementaires concernées. Le Premier ministre qui souhaite en fait les informer de l'état de la menace et du positionnement de la France face à la guerre au Moyen-Orient. Vous écoutez le journal de France Culture, il est 18h13. Un mandat d'arrêt a été délivré envers Tariq Ramadan. L'islamologue suisse est jugé pour viol, sera jugé pour viol par défaut et à huis clos. C'est une décision de la Cour criminelle départementale de Paris. C'est pour des viols commis sur trois femmes entre 2009 et 2016. Alors Tariq Ramadan ne s'est pas présenté devant la justice française depuis l'ouverture de son procès. Le procès a donc finalement commencé cet après-midi, sans lui, sans l'accusé donc. Mathilde Maire suit les débats au Palais de Justice de Paris.
L'audience devait débuter lundi, mais Tariq Ramadan ne s'est pas présenté. Selon ses avocats, son état de santé ne le lui permettait pas. Il était hospitalisé depuis deux jours à Genève. La cour a donc mandaté deux experts neurologues qui, dans leur rapport rendu ce matin, ont estimé que la sclérose en plaques de l'islamologue était stabilisée depuis plusieurs années, qu'il était tout à fait apte à être jugé. Le prédicateur musulman est sorti hier de l'hôpital après quantité d'examens rassurants. La défense a tenté de produire un autre certificat d'un autre médecin conseillant du repos à leur client. Pas de quoi convaincre convaincre la cour qui a décidé que Tariq Ramadan, n'ayant pas d'excuse valable, serait jugé par défaut en son absence. Les quatre avocats du prédicateur, scandalisés, ont quitté la salle. Maître El Amamouchi.
Depuis le début, Tariq Ramadan n'a pas été traité comme un justiciable comme les autres. On lui refuse même le droit d'être présent à son propre procès en pleine possession de ses moyens. Il a juste sollicité un report de quelques semaines. C'est un déni de droit pur et dur. Et nous assumons de partir. En réalité, est-ce qu'on a un autre choix ? Rester, c'est assumer cette parodie de justice aujourd'hui.
Tariq Ramadan se trouve en Suisse, où il ne devait se rendre normalement sans autorisation préalable de la justice française. La Suisse, où il doit par ailleurs purger une peine d'un an de prison. Il a été condamné définitivement dans ce pays, également pour des faits de viol.
Les explications de Mathilde Lemaire. Venons-en au dossier de ce journal, un dossier qui se penche sur TikTok, son influence en France avec près de 30 millions d'utilisateurs, ses contenus toujours accusés de faire des dégâts chez les jeunes utilisateurs. C'est une révélation de la cellule d'investigation de Radio France. Des familles continuent d'accuser le réseau social chinois d'avoir gravement porté atteinte à la santé de leurs enfants et dans les pires cas, de les avoir poussés au suicide. Bonjour Maxime Tellier.
Bonsoir.
Votre enquête commence donc chez une avocate.
Oui, le téléphone sonne encore régulièrement au cabinet de maître Laure Boutron-Marmion avec au bout du fil toujours de terribles nouvelles. L'avocate est devenue au fil du temps la porte-parole des familles endeuillées qui veulent faire reconnaître la responsabilité de TikTok dans le drame qui les a touchés.
Malheureusement, chaque semaine, je reçois des appels ou des mails de parents endeuillés qui me disent que voilà, ils viennent de perdre leur fils ou leur fille, qui se sont suicidés, bien souvent avec des modes opératoires qui sont ceux que l'on trouve sur TikTok. De fait, les choses ne changent pas, hein. La régulation des contenus, on n'y est toujours pas.
L'avocate décrit une spirale de vidéos mortifères qui peut enfermer un jeune s'il est vulnérable. C'est ce qu'on appelle l'effet terrier de lapin.
Et comment ces jeunes en arrivent à se faire piéger ?
Par la mécanique infernale de l'algorithme, d'après Amnesty International, qui a publié une enquête il y a quelques mois en créant des comptes sur TikTok et en regardant des vidéos sur la santé mentale. Katia Roux est l'une des porte-paroles.
On regardait simplement deux fois les vidéos qui étaient liées à la santé mentale. On s'est aperçu qu'il fallait entre 15 et 20 minutes pour que l'ensemble des fils soient remplis de vidéos liées à la santé mentale. Et puis au bout de 45 minutes, on a commencé à voir les premières vidéos sur le suicide. Et il faut compter entre 3 et 4 heures pour avoir des vidéos sur littéralement des méthodes pour passer à l'acte, comment faire un nœud pour se pendre.
TikTok, de son côté, affirme que protéger les utilisateurs est sa priorité, mais le ton se durcit face à l'application. Le parquet de Paris a ouvert une enquête à l'automne dernier et le mois dernier, les députés ont voté l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le Sénat doit encore se prononcer.
Et malgré cela, Maxime, TikTok continue de tisser sa toile en France. C'est ce que révèle votre enquête.
Oui, via des partenariats culturels ou associatifs ou en recrutant des hauts fonctionnaires comme au ministère de la Culture ou à l'ambassade de France à Dublin, là où TikTok a son siège européen. Le député PS Arthur Delaporte a présidé une commission d'enquête sur TikTok à l'Assemblée l'an dernier.
TikTok cherche à s'attirer pour ses affaires publiques des gens qui ont des portes d'entrée dans les administrations. C'est une idée d'institutionnalisation de la marque. Deuxième stratégie, c'est de recruter quelqu'un basé à Dublin sur le service économique de l'ambassade de France et donc qui avait forcément à en connaître de la régulation des plateformes du numérique qui sont basées à Dublin. Et il me semble, oui, que ça pose problème.
Dans votre enquête, vous évoquez aussi un soutien de poids pour TikTok, le milliardaire français Xavier Niel.
Oui, patron de Free, actionnaire du journal Le Monde, financeur des startups, Xavier Niel a rejoint le conseil d'administration de la maison mère de TikTok en 2024, la multinationale chinoise ByteDance, et il s'oppose à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, votée en janvier à l'Assemblée.
Je pense qu'en toute chose, il faut être modéré. Mais je suis toujours gêné par le fait d'interdire ou de bloquer des choses qui sont des libertés.
Enfin, nous révélons aussi un projet confidentiel de ByteDance qui étudie sérieusement un investissement dans des data centers en France pour le développement de l'intelligence artificielle, un projet à plusieurs milliards d'euros. TikTok est donc bel et bien implanté en France.
Maxime Tellier, merci. Votre enquête est à retrouver sur franceculture.fr. Au Népal, le candidat préféré de la Gen Z, ces jeunes Népalais qui ont fait tomber le gouvernement il y a 6 mois, a toutes les chances de devenir Premier ministre, puisque le parti de Balendra Shah est en tête des élections législatives. Les bureaux de vote sont fermés et selon les premières tendances, il arrive à la première place dans plus de la moitié des circonscriptions du pays. Son profil est très atypique, Il est rappeur et il avait déjà par le passé conquis la mairie de Katmandou. C'est le champion de la Gen Z, même s'il n'a pas levé tous les doutes. Sur place pour France Culture, dans le centre de Katmandou, la capitale, Juliette Chénion.
Au pied des temples hindous de la place du Darbar, devant un plat de momo, les raviolis népalais, Prakti, 21 ans, s'attend à une victoire de son camp.
Je suis très content. Les vieux candidats sont tous corrompus. Les jeunes apportent un nouveau souffle.
Cet étudiant a voté pour le Parti National Indépendant, le RSP, un soutien des révoltes de la jeunesse. Créé il y a 4 ans, ce parti se dit anticorruption, promet de renouveler la classe politique et de développer le pays. Pour Prakti et son ami, les priorités sont nombreuses.
Comme l'éducation, les routes et la corruption principalement.
Tous les jeunes vont à l'étranger pour travailler et étudier. Je pense que ce ne sera plus le cas maintenant.
Ces jeunes croient surtout en Balendra Shah, 35 ans, ingénieur, rappeur, ex-maire de Katmandou et désormais candidat au poste de Premier ministre pour le RSP. Une personnalité clivante, certains comme Ramesh s'inquiètent des relents populistes de sa campagne et de son manque d'expérience.
S'il fait des bonnes choses, on sera tous ravis. S'il ne fait pas de bonnes choses, il lui arrivera la même chose qu'aux autres, on verra.
Le dépouillement est encore en cours. Les Népalais connaîtront les résultats définitifs du scrutin dans quelques jours.
Juliette Chénion, l'envoyée spéciale de France Culture dans le centre de Katmandou, la capitale du Népal. La météo, demain la France sera partagée entre douceur printanière et nuages. Sur la moitié nord, le temps sera globalement sec et assez lumineux avec des éclaircies malgré un ciel parfois voilé. Côté température, la matinée restera fraîche avec environ 5 à 10 degrés, 15 à 19 l'après-midi. Le journal de la rédaction a été préparé avec Alison Vicrobeck et Alex Dan. Derrière la console. Il est 18h21. C'est à vous, Quentin Lafay, question du soir.
Merci beaucoup, Faouzi Trita. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue donc dans Question du soir. Un début de soirée consacré aux idées, aux rencontres et aux découvertes. Et à 19h, on va faire de l'histoire et se replonger dans un vieux canular d'extrême droite de la fin des années 20. Les Poldèves, faux peuples d'Europe de l'Est, créés de toutes pièces par l'action française pour piéger des députés. On en parlera avec Christophe Granger, il est historien et il vient de faire paraître l'ouvrage intitulé « Ceci est un canular, les Poldèves, l'extrême droite et la politique du faux ». C'est aux éditions de La Découverte. Mais pour l'heure, place au débat du soir.
France Culture, question du soir. Quentin Lafay.
Le ministre de la Défense pakistanais a déclaré la guerre ouverte à l'Afghanistan dans la nuit du jeudi 26 février en riposte à une offensive afghane lancée à la frontière. Le Pakistan a alors déclaré cette guerre ouverte aux autorités talibanes, bombardant notamment la capitale afghane, Kaboul, l'ancienne base américaine de Bagram, ainsi que Kandahar, une ville du sud où réside reclus le chef suprême des talibans afghans. Alors pourquoi cette guerre? Parce que le Pakistan reproche à son voisin d'abriter des groupes djihadistes et notamment le TTP, un groupe politique djihadiste qui a pour but affiché de renverser l'État pakistanais. Alors une question ce soir, la guerre entre ces deux pays peut-elle devenir complète, totale? Et deux pédagogues pour nous éclairer ce soir, Gilles Doron-Soro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur de l'ouvrage intitulé « Le plus grand des mots, sociologie des guerres civiles », un livre qui a paru en avril 2025 et dont nous avions parlé dans cette émission, c'est chez CNRS Éditions. Avec vous, Ariane Cantier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, consultante, vous avez été porte-parole des Nations Unies en Afghanistan entre 2003 et 2010. Vous avez travaillé pour l'Union Européenne au Pakistan de 2010 à 2012. Vous avez signé l'ouvrage intitulé « Afghanistan au cœur du chaos ». C'était en 2009 aux éditions de Noël. Et vous avez co-réalisé avec Paul Comity le documentaire intitulé « La France dans la guerre ». 2 mois au cœur du piège afghan qui a été diffusé sur TF1 en 2008. Merci donc à vous deux d'être présent ce soir dans Question du soir.
Ce vendredi matin, dans les rues de Kaboul, l'heure est au ramassage du verre cassé, symbole de l'intensité des frappes survenues dans la nuit. Il est environ 22h jeudi soir quand les premières détonations retentissent. Les frappes aériennes proviennent du Pakistan, qui cible également la ville de Kandahar, ainsi que la province de Paktia, dans le sud-est de l'Afghanistan. Des attaques ciblées et accompagnées d'un message clair du ministre pakistanais de la Défense.
Notre patience a atteint ses limites. C'est désormais la guerre ouverte entre nous et vous.
À l'origine des tensions, la ligne du rang, frontière tracée par les Britanniques, est contestée depuis toujours.
Lorsqu'est créé le Pakistan en 1947, la ligne du rang devient pour les Pakistanais très naturellement une frontière internationale. Et malheureusement pour eux, aucun régime afghan n'a reconnu cette frontière comme étant une frontière.
Un conflit larvé de plus en plus inquiétant, d'autant que toutes les tentatives de médiation précédentes sont restées infructueuses. À noter également que le Pakistan est une puissance nucléaire.
Alors il faut, pour comprendre, bien mesurer l'ampleur de ce conflit, faire de l'histoire, remonter le temps, revenir peut-être aux tensions originelles entre le Pakistan et l'Afghanistan. Commençons donc par cette ligne Durand, du nom du colonel britannique Mortimer Durand, et qui est peut-être à l'origine justement de ces tensions qui persistent encore aujourd'hui, Gilles de Ronsoreau.
Oui, alors la ligne Durand a été tracée à la fin du 19e siècle, hein, et c'était la frontière de l'Empire des Indes, puisque le Pakistan n'existait pas à l'époque. Et c'est une frontière qui a été délimitée sur des critères strictement militaires. Donc si vous vous promenez le long de cette frontière, ce qui était possible il y a quelques années, ce qui n'est plus aujourd'hui, vous voyez une série de fortins qui sont des fortins britanniques, en fait. Et c'est visiblement des constructions militaires. Et à l'époque, l'Afghanistan était sous influences, protectorat pratiquement britannique. Et c'est au moment où le Pakistan a été créé que s'est posée la question du statut de cette frontière. Et là, l'Afghanistan a revendiqué une partie des territoires qui sont aujourd'hui au Pakistan sur la base d'une ambiguïté dans les traités qui avaient été signés à l'époque entre l'Afghanistan et les Britanniques. Donc voilà, ça c'est le cœur du problème, le cœur historique du problème.
L'autre cœur historique du problème, lié évidemment à cette frontière, vous l'avez dit Gilles de Ronsoreau, les critères qui ont présidé à cette ligne sont d'abord des critères militaires, des critères stratégiques. En revanche, c'est les critères ethniques et notamment l'avenir et le destin de la communauté pachtoune qui se trouve des deux côtés de cette ligne, eux ont été totalement délaissé, Ariane Cantier.
Alors effectivement, c'est intéressant parce que finalement, vous avez en Afghanistan une population de Pachtounes d'à peu près 15 millions de personnes, mais qui représente près de la moitié de la population en Afghanistan. Et vous avez au Pakistan une population de Pachtounes qui est trois fois le nombre des Pachtounes en Afghanistan, mais qui ne représente que 20% de la population pakistanaise. Non, ce qui est intéressant aussi, si on se met dans la position du Pakistan, c'est quand le Pakistan est arrivé à l'indépendance en 1947, d'une part, l'Afghanistan était le seul pays à ne pas reconnaître l'accession du Pakistan aux Nations Unies, mais d'autre part, au même moment, quand ils avaient l'indépendance, ils avaient des problèmes avec la frontière indienne, problèmes qui ne sont toujours pas résolus aujourd'hui, problèmes au nord avec la frontière afghane qui ne sont toujours pas résolus aujourd'hui, et des problèmes assez sérieux avec le Baloutchistan et la frontière iranienne qui sont à moitié résolus aujourd'hui, sachant que le
Baloutchistan... Des problèmes avec tout le monde, donc.
C'est pas forcément de leur faute, hein. Moi, j'aime beaucoup le Pakistan, mais il faut reconnaître que pour commencer et avoir une politique stratégique, une géopolitique et une appréhension d'une façon ou d'une autre de ses voisins, quand on a des frontières qui ne sont pas définies à droite, à